Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre santé un trésor. J'ai une fois de plus le grand plaisir avec vous de recevoir le professeur Nicolas Leroy. Il est vice-président de l'administration et relations internationales à l'Université de Nîmes, c'est-à-dire UNIM. Nicolas Leroy est professeur des universités en histoire du droit. Il est enseignant-chercheur à UNIM, où j'ai enseigné. Ses thématiques de recherche portent initialement sur les sources du droit au Moyen-Âge. Elles se sont ouvertes sur la question des relations entre religion et droit à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il travaille sur la laïcité, notamment au sein du diplôme d'université, laïcité et médiation à l'université qu'il co-dirige. Merci à vous de nous prodiguer un nouveau moment passionnant et bonjour à vous Nicolas Leroy.
Bonjour.
Nous allons évoquer aujourd'hui les médecins face aux épidémies au Moyen-Âge. Une épidémie désigne l'augmentation rapide d'une maladie en un lieu donné, sur un moment donné. Les épidémies sont aussi anciennes que l'humanité et toutes les populations en sont ou en ont été affectées à un moment ou à un autre de leur histoire. Certaines d'entre elles ont été responsables de nombres élevés, parfois considérables, de morts et ont eu des conséquences sanitaires, sociales, culturelles, religieuses, politiques, économiques importantes. Les épidémies sont des phénomènes biologiques complexes. Elles résultent des interactions entre trois catégories de facteurs: les germes pathogènes responsables, les populations d'hôtes qu'ils colonisent et l'environnement dans lequel cet ensemble évolue. Les micro-organismes peuvent être des champignons comme l'ergot de seigle qui donne le mal des ardents, l'ergotisme, une épidémie alimentaire. La dynamique des épidémies a varié au cours des temps en fonction des évolutions des différents facteurs. La connaissance actuelle des agents infectieux et de leur histoire naturelle apporte des enseignements utiles à l'organisation de la surveillance, au développement des outils diagnostiques et thérapeutiques, à la mise au point des moyens de lutte et à la conception des programmes de prévention des épidémies du futur. Quelles ont été les épidémies les plus marquantes de l'histoire ?
Bon, je ne pourrais pas vous en donner la liste exhaustive. On a des traces d'épidémies dès la Grèce antique, hein, à travers les écrits des historiens qui sont plus en fait des chroniqueurs de la Grèce, d'Athènes en tout cas du 5e siècle, où on a ce qu'on appelle communément des pestes, mais qui sont sans doute plus des épidémies de variole, qui déciment déjà Athènes dès la fin du 5e siècle. Ensuite, si on fait un petit bond dans l'histoire, parce qu'on ne va pas toutes les citer, mais bon, parmi les plus marquantes, il y a celle qu'on appelle la peste de Justinien. Là, pour le coup, c'est vraiment la peste au sens où on l'entend aujourd'hui, qui décime Constantinople et au-delà, de manière très violente. Donc là, on est au début du 6e siècle. Difficile de donner un bilan en termes de mortalité, mais c'est sans doute des chiffres qui sont, en termes de proportion, absolument dramatiques, quoi. Ensuite, on a bien sûr la peste noire. La peste noire, donc là, on est au 14e siècle, 15e siècle, pardon, pardon, 14e, milieu du 14e siècle, 1348, ça débute. Et ça vient d'Asie centrale, sans doute, ça va frapper l'Europe occidentale, donc à partir de 1348, à partir de Marseille. Et les chiffres, là, sont, on les connaît un tout petit peu mieux, on est capable davantage de donner des chiffres, mais c'est sans doute une mortalité à peu près d'un tiers de la population européenne. C'est absolument énorme. Ensuite, bon, bien sûr, il y a d'autres grandes épidémies qui viendront par la suite. À la fin du Moyen-Âge, la syphilis. Et puis, à l'époque moderne, la peste revient plusieurs fois. Le choléra au 19e siècle, ça c'est vraiment la maladie du 19e siècle. Et puis la dernière très grande épidémie, c'est la grippe espagnole, hein, qui est sans doute la pire en termes de mortalité au début du 20e.
Le Moyen-Âge n'est pas uniblock. Y a-t-il eu des épidémies par période ?
Oui. Bon, le Moyen-Âge, si on le découpe un peu, on considère généralement qu'il y a une première période, le Haut Moyen-Âge, ou ce qu'on appelle assez souvent aussi l'Antiquité tardive. Puis il y a le Moyen-Âge central autour de l'an 1000, et puis le Moyen-Âge tardif. Pendant la période d'Antiquité tardive, il y a cette grande épidémie de Justinien, la peste de Justinien, enfin dite de Justinien, et puis la peste noire à la fin de la période. Autour de l'an 1000, il y a des épidémies, bien sûr, mais qui sont finalement assez limitées. Ce n'est pas des pandémies au sens où on l'entend aujourd'hui, qui déciment sans limite, quoi, ou quasiment.
Est-ce que vous avez une notion des maladies vénériennes et leur développement ? Qui ne sont pas des épidémies, mais qui courent
oui,
en continu.
Oui, bah après ces épidémies, déjà, elles courent en continu, en fait. Parce que la peste noire, bien sûr, elle a été particulièrement marquante sur une période assez courte d'à peu près 5 ans, hein, entre 1347-48 et 1352. C'est là qu'elle est la plus violente. Mais ensuite, elle revient. Hein, elle revient jusqu'au 18e siècle.
Hein. Mais, je vous ai une question plus spécifique. Oui.
Donc, ça existe, bien sûr, ça revient régulièrement. Quoi.
Qu'en est-il de la peste noire, qui est une peste bubonique?
Alors,
signalée en Chine en 1333, puis aux abords de la mer Noire vers 1340, qui s'est rapidement étendue en Europe et dans certaines régions d'Asie, qui a permis 75 millions de morts, et peut-être bien davantage si elle s'est étendue à l'Afrique subsaharienne. Mais là, on n'a pas de documentation.
Non.
On évalue à 440 millions actuellement le nombre d'humains qui sont morts de cette peste.
Oui, alors bon, je ne sais pas, là pour le coup, ces chiffres, c'est assez difficile de les confirmer. Maintenant, c'est certain qu'en tout cas en Europe, les pertes sont massives. Hein, puisque je vous le disais tout à l'heure, sans doute un tiers de la population. Dans certaines régions, ça monte peut-être à 50% de la population qui va mourir. Donc et sur une période brève, hein, encore une fois, 5 ans à peu près. Donc il faut imaginer la catastrophe que ça a été de le vivre, la panique que ça a été surtout face à une maladie. Je vous rappelle, on ne connaît son fonctionnement que depuis la fin du 19e siècle. Donc à cette époque, on n'y comprend rien, vraiment.
Qu'est-ce qu'on faisait pour soigner la fièvre?
On savait pas la soigner. Alors c'est étudié, hein. Il y a des médecins qui étudient, hein. Il y a Guy de Chauliac par exemple, hein, qui vit à la cour du pape à Avignon à cette époque, et qui observe, qui d'ailleurs nous dit que la peste, il y en a deux types. Il y a la peste bubonique, qui est la plus connue bien sûr, la plus spectaculaire sans doute aussi physiquement, mais qui n'est pas la plus grave, parce qu'on peut survivre de la peste bubonique, tandis que la peste respiratoire, elle est, on meurt en 3 jours. Quoi.
C'est des périodes cliniques de la peste, en fait. Mais c'est vrai que quand les bubons, où on meurt, où les bubons rétrécissent, à ce moment-là, on peut en survivre.
Il y en a qui survivent. Et ça, c'est remarqué déjà dès cette époque-là. Maintenant, pour la guérir, on n'a aucun remède. Ça, c'est certain. Après, il y a des... ces médecins l'étudient, ce mal. Donc, on constate que le principe de la contagion, on l'a pas encore tout à fait compris, mais on arrive à comprendre quand même que quand on est proche ou au contact de quelqu'un, on risque de l'attraper. Donc, du coup, l'idée de l'isolement, l'idée d'éloigner les personnes, de fuir. Hein, le premier conseil que donnent les médecins, c'est fuir, quoi. Quand la peste arrive dans une ville, il faut partir, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais bon, le problème, c'est que ça risque de propager le mal.
Alors, je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus en 3.2 FM. Mais aussi, vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui le professeur Nicolas Leroy, médiéviste et juriste, qui enseigne et recherche à UNIM, l'Université de Nîmes. Il nous parle des médecins face aux épidémies au Moyen-Âge. Je vous propose une petite pause musicale avec un extrait de la 9e symphonie de Dvorak, le mouvement numéro 2. Thank you. Nous avons vu la peste comme une des épidémies les plus terrifiantes. J'ai évoqué l'ergotisme. Quelles sont les autres pathologies qui ont sévi au Moyen-Âge ?
Alors, on a la lèpre, hein, notamment, qui est assez attachée à l'image noire du Moyen-Âge, ou à l'image sombre en tout cas. Donc la lèpre, elle est assez présente pendant le Haut Moyen-Âge, un petit peu moins quand on avance dans le temps et quand on arrive vers la fin du Moyen-Âge. La variole, qui est revenue à plusieurs reprises également pendant le Moyen-Âge. La syphilis, dont on a des traces dans les sources à partir de la fin du XVe. Ensuite, on se heurte un peu au problème des sources, en fait, parce que déjà, eux n'appellent pas les maladies comme on les appelle,
alors, ça,
nous.
C'est un vrai problème. Suivant les termes, on appelle la maladie, qui n'ont pas la même nomination actuellement.
Oui, alors il y a une appellation générale, hein, c'est la pestilence, parce que, il y a des odeurs, il y a toute une série de choses. On appelle peste, du coup, des tas de choses, en fait, qui ne sont pas forcément des pestes. On sait, par exemple, qu'il y a certaines épidémies de peste de l'Antiquité qui étaient en fait des épidémies de variole. La lèpre, elle est bien identifiée parce qu'évidemment, ça se voit très précisément. Oui, mais par contre, d'autres maladies, on a un petit peu de mal à les identifier. Il y a des exceptions. Hein. Vous avez parlé du mal des Ardents, typiquement, qui lui est assez bien connu à cette époque-là. Mais par contre, ensuite, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à partir des sources dont on dispose. Alors, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il y a quand même des sources assez nombreuses. Mais avant, les sources ne sont pas très nombreuses. C'est des chroniques. Donc évidemment, quand on nous dit qu'il y a une pestilence quelque part, assez difficile de savoir ce que c'est, quoi.
Alors, en langage riche médical, ça s'appelle la nosologie, c'est-à-dire la science
des maladies,
des noms en médecine, quoi. Lors d'épidémies, comment s'organisent au Moyen-Âge les soins et ce que nous appelons la prévention?
Alors, il y a déjà des mesures préventives, hein, et c'est assez intéressant sur la période de la peste noire notamment, où justement, comme on va associer la transmission de la maladie à l'air, il y a toute une réflexion sur l'aération. Des villes notamment, on déconseille d'avoir des rues trop étroites, il faut des rues qui soient bien aérées parce qu'on pense que ça passe par l'air, hein, la maladie, en tout cas la peste. Donc il y a ce genre d'éléments. Et puis il va y avoir des choses qui vont davantage nous parler par la suite, hein, c'est la quarantaine. Donc ça, on commence à voir apparaître la chose à la fin du XIVe siècle. C'est sur la côte d'Almate, dans une ville qui est Raguse, qui va être la première sans doute à pratiquer le refus d'accession d'un navire sur lequel on pensait qu'il y avait une maladie. Et donc, on va leur interdire d'accéder au port. On va les laisser 30 jours attendre. Et puis, ça va devenir 40 jours à Venise au début du XVe siècle, d'où la quarantaine. Donc, il y a ce genre de choses qui commencent à apparaître. Et puis, bien sûr, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on va vouloir limiter le contact. Hein. Il y a un médecin qui s'appelle Pierre de Damosy, qui écrit à l'époque de la peste noire, donc au milieu du XIVe, et qui lui pense que le contact d'humain à humain transmet la maladie. Donc il faut évidemment éviter d'être en contact avec les personnes qui sont malades. Et puis on va également interdire d'enterrer les morts de maladie à l'intérieur des villes. On va les enterrer à l'extérieur pour éviter là aussi des contaminations éventuelles, etc.
Vous venez récemment de réaliser un travail sur les épidémies au Moyen-Âge. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, c'est un travail, je suis historien du droit, donc du coup, c'est ce qui m'a intéressé ici, c'est le traitement juridique des épidémies, voir un petit peu ce qu'on avait dans la réglementation pour tirer les conséquences de l'épidémie, éventuellement prévenir les épidémies, voir un petit peu si le droit s'était adapté à l'épidémie pour éviter que ça se reproduise, quoi.
C'est intéressant, justement parce qu'en fin 2019, la planète entière a subi une pandémie de Covid-19. Une pandémie est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale qui touche une partie particulièrement importante de la population mondiale. L'exemple type en est la grippe. Maintenant, le Covid-19. La maladie infectieuse émergente a été appelée la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. Elle est apparue le 16 novembre 2019 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine centrale, avant de se propager dans le monde. Donc vous avez connu une épidémie. Une pandémie presque planétaire. Une pandémie, c'est vraiment une épidémie planétaire et un peu la manière dont au Moyen-Âge on pouvait s'occuper des épidémies, sauf la vaccination. Les études en histoire peuvent-elles nous apporter certains éléments pour mieux comprendre, étudier et lutter contre d'éventuelles nouvelles épidémies ou pandémies, à votre avis ?
Alors évidemment, les connaissances scientifiques dont on dispose aujourd'hui font que c'est assez difficile de comparer la période actuelle de la période médiévale. Maintenant, quand même, la profondeur historique que nous donne la connaissance des épidémies du passé, ça permet de nous intéresser au comportement des personnes, notamment, face à l'épidémie. Et ce qu'on a pu connaître début 2020, au moment où donc la Covid a touché la France, cette stupéfaction, cette incompréhension et puis des peurs collectives, en fait. Hein, c'est assez intéressant parce que c'est des choses qui vont exactement reproduire ce qu'on a pu connaître à l'époque de la peste au XIVe siècle. Donc, c'est assez intéressant, si vous voulez, sous un angle social, d'avoir une connaissance des épidémies, beaucoup plus que sous un angle médical, d'avoir une connaissance des épidémies du passé pour arriver à peut-être anticiper des comportements de société. Et puis, bon, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde la peste donc du 14e, 15e, ce qu'on constate, c'est que après quand même une saignée, pour reprendre un terme médical de l'époque, qui est quand même massive, puisque je l'ai dit, hein, un tiers de la population européenne sans doute qui est morte à cette époque-là, le monde d'après, il n'a pas existé en fait. Hein, le monde a repris comme il était auparavant, avec beaucoup de monde en moins, ce qui a eu toute une série de conséquences économiques et politiques d'ailleurs, mais par contre, on n'a pas changé notre manière de vivre. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve.
C'est un beau projet de travail entre histoire, sociologie, épidémiologie et médecine. Je pense que c'est quelque chose qui... une transversalité qui est intéressante, qui mériterait une approche. Il nous reste à vous remercier, professeur Nicolas Leroy, pour nous avoir appris tant de choses et nous avoir fait participer à ces travaux. Encore merci infiniment à vous.
Merci pour l'invitation.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Les grandes épidémies dans l'histoire, quand peste, grippe espagnole, coronavirus, grand livre de 2021 de Henri de Lernichter. Histoire des épidémies, livre de Norbert Gould en mars 2006. Atlas historique des épidémies de Guillaume Lachenal et Gaëtan Thomas. Atlas Monde, paru le 24 mai 2023, Les grandes pandémies de l'histoire, de la peste au Covid, de Jean Vito, chez Archipoche, de 2021. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Thank you. caes, les mustiers facet desertes, deus mies nae sacrificiens, si vades que es vos pur pensets, vos quidar mes estes presets, a senuibus per perseles, qui pur vos futen vos treques.
Mi onerida al mondo,
Quilia nubevis, qui plus at quebus negaves, li perdeis est et verseris, sur plus altres escurunes, de quervitat ebraievis, gestels e vides esites, directures malice, qui voi nos odem nos fedem. Pais diffident en signios, que mors suffrite passium, or vos mande que chaneus, elagem sanguine fedum, mut liudait de vivent meus, or lumen desfieredum. At rise et creatur jornis, pleserunt ad libecur, qui bien ferunt cursamur, irunt en selve soem servir, pur la venganse Deo fugir, per la fulmum primeserum, per reconum ursenum. Yeah.